avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
Voilà, nous sommes avec Pascal Bruckner et Marc Lambron. Nous allons parler un peu de littérature, ça va changer, nous allons nous détendre. Avec Michel Houellebecq, Quelques mois dans ma vie, octobre 2022, mars 2023, publié aux éditions Flammarion. Michel Houellebecq qui revient sur cet entretien donné avec Michel Onfray à Front Populaire. Entretien dont il regrette un certain nombre de formulations. Et puis, il est embarqué dans une histoire de porno du côté d'Amsterdam, donc par un personnage qu'il appellera le cafard. Et qui, d'après Michel Houellebecq, l'a entièrement emberlificoté dans une histoire qui n'avait pour but, alors que lui espérait obtenir une sorte de carnet intime de sa vie sexuelle, que l'exploitation commerciale de sa personnalité au profit, évidemment, d'une diffusion sur les réseaux sociaux du film dont il a tourné simplement quelques séquences. Il a senti le besoin, j'essaie de résumer, donc de résumer chez Flammarion ces deux problèmes qui lui amènent non pas à faire une sorte de mea culpa, mais une mise au point la plus précise possible dans un style houellebecquien fort plaisant. D'un premier point de vue, celui de Pascal Bruckner, vous avez lu donc ce livre de Michel Houellebecq, très attendu, qui n'est pas un grand roman comme il a l'habitude d'en fournir. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Vous trouvez un Houellebecq anxieux?
Oui, c'est un livre surprenant parce qu'on pensait que Houellebecq était une star, donc sûr de lui-même et dominateur, et pas du tout. Il marque un point de faiblesse. Alors il y a d'abord cette interview que j'ai trouvée personnellement désastreuse à Front Populaire, où Houellebecq appelle à faire des Bataclans en banlieue pour punir les musulmans.
Il y revient. Il y revient carrément.
Oui, il revient là-dessus. Et alors là, est-ce qu'il est sincère ou non dans son repentir? Il dit qu'en réalité on a calomnié l'islam, que lui, le burkini, ne le choque pas du tout, que les musulmans ne sont pas violents, même les salafistes, qu'en réalité ce sont des délinquants qui s'emparent de cette religion pour tuer, pour décapiter. Et là, on lit ça avec un certain scepticisme. Si on pense par exemple au cas de Florence Bergeau-Blacker, cette chercheuse du CNRS qui a fait une longue enquête sur les frères musulmans qui est menacée de mort aujourd'hui, on se dit que peut-être Houellebecq est un peu léger sur cette question-là. Mais disons que
il donne l'impression de quelqu'un qui s'est emporté lors d'un entretien et qui finalement, après le regrette, a demandé à Onfray que dans la nouvelle édition
de corriger.
Oui,
exactement.
Peut-être ne s'est-il pas relu et qu'au fond, ça lui a été plus ou moins refusé sous des prétextes par le producteur et donc par Michel Onfray qu'il déplore en gros. Pour
oui, mais on peut penser que là, Houellebecq songe à sa carrière et qu'il préfère épouser le politiquement correct de son temps. Quant au film porno, je dois dire que je ne comprends pas exactement ce qui le gêne, mais de temps en temps, on retrouve...
Au fond, ce qu'on comprend, c'est qu'il revendique... Je vais essayer de faire plus compliqué... Pour Houellebecq, la décadence de l'Occident ne passe pas par l'augmentation de la pornographie ou de la sexualité. Il pense que les deux, dans un monde qui est un monde chrétien, sont des œufs qui, vous qui avez écrit Lune de Fiel, sont deux choses qui peuvent aller parfaitement ensemble. C'est-à-dire, au fond, un Occident chrétien et en même temps une sexualité totalement assumée. Et au fond, avec sa femme, il a une vie sexuelle libre et il a une espèce d'envie vaniteuse, d'ailleurs il le dit dans l'entretien du Figaro, de bêtise, de faire filmer une partie de sa vie sexuelle en se disant j'aurai une sorte de carnet intime comme le journal de ma vie sexuelle. Sauf qu'évidemment, le producteur hollandais a une toute autre idée dans la tête, Marc Lambron.
Bon, c'est un livre assez triste parce que c'est un livre d'abjuration. Alors en effet, sur le premier point, il y a cet entretien avec Onfray. Il a dit ce qu'il a dit, on est comptable de ce qu'on dit ou de ce qu'on écrit. Il a relu. Et maintenant, donc, il le réécrit. D'ailleurs, Onfray lui-même assez spécialiste des reniements. Je vous rappelle qu'en avril 2020, il avait décrété que le professeur Raoult était le grand homme selon Hegel. Et en octobre, quand il attrape le Covid, il le déchoit et il n'en parle plus. Bon, alors, il y a eu ce pataquès avec la mosquée de Paris. Et bref, voilà que Houellebecq veut réécrire ce qu'il avait dit de manière atténuée. C'est pas la première fois, souvenez-vous, vis-à-vis de l'islam, que son roman Soumission paraît le même jour que la tuerie de Charlie Hebdo. Il descend pas dans la rue avec 4 millions de compatriotes, il va se cacher en Espagne. Donc, André Malraux s'éloigne. Sur le deuxième point, il y a cette histoire, cette ténébreuse affaire. Il signe, il se fait approcher par un producteur de films pornographiques hollandais. Et Houellebecq, 67 ans cette année, se propose donc d'aller tourner ce film, alors, à condition qu'il y ait des masques. Alors, il est déçu parce qu'il n'y a pas de masque, et puis il signe un contrat, il a quand même un agent, on le sait. Bon, il signe un contrat, et il s'aperçoit que ce contrat ne lui donne aucun contrôle sur ses images. Alors, je vous dirais une chose pour finir, c'est que c'est un livre qui n'est pas destiné à ses compatriotes, c'est un livre qui est écrit pour les Suédois. Car Houellebecq depuis
la vacherie va arriver.
Car Houellebecq depuis 2 ans apparaît sur les radars de l'Académie Nobel, mais le puritanisme suédois s'accommode mal de ses facéties.
Vous voyez les arrière-pensées partout.
Non, il faut toujours décrypter. Il faut toujours. Nous sommes dans l'ère du soupçon, et donc c'est un livre qui doit être lu à Stockholm et éventuellement en France.
Mais justement, pardonnez-moi de mettre mon grain de sel dans vos réflexions après avoir tenté, je l'espère, de résumer donc quelques mois dans ma vie. Il y a quand même quelque chose qu'on retrouve, c'est d'une certaine manière, alors que cette histoire est quand même, comme vous l'avez expliqué, un peu une histoire de reniement, quelque chose que j'allais dire qui passe, c'est-à-dire que la façon de raconter quelque chose qui n'est pas glorieux, bah, finalement, ça va très vite et très bien. Quoi. C'est ça qui est quand même du domaine de la performance. Ça pourrait être pathétique, ça l'est pas du tout.
Oui, parce que de temps en temps, on retrouve le Houellebecq qu'on aime. Alors, il dit, par exemple, son admiration pour Xavier Dupont de Ligonnès, qu'il aurait voulu croiser. Il raconte cet épisode insensé où Xavier Dupont de Ligonnès invite son fils à déjeuner à midi pour le tuer le soir. Puis finalement, ça n'a pas lieu. Il défend Depardieu, il dit que les femmes sont des menteuses.
Il attaque Picasso,
qui trouve une âme laide. Donc là, évidemment, il se range un petit peu, là aussi, du côté des néo-féministes. Il se définit comme un macho romantique tendance grunge. Il préfère Pete Gadget à Mickey. Donc là, c'est là, il est touchant. Et finalement, on se dit, on attend de Houellebecq un autre grand roman. Parce que c'est quand même l'auteur phare de la littérature française, même si Marc a raison, il se renie. Mais qui ne s'est pas renié dans ses engagements successifs?
Marc Lambron, vous connaissez
Lyon. Si tu t'engages peu, tu n'as pas à te renier.
Oui.
Bon. Autre question, là aussi, c'est vraiment le paradoxe d'un livre qui est pratiquement entièrement consacré à une histoire d'amour et à une histoire d'amour aussi à l'égard de celui qui a peut-être été le plus grand pianiste du XXe siècle, Horowitz, mais dont on a retenu une page, c'est le roman de Bruno Le Maire. Alors, ce roman de Bruno Le Maire, vous l'avez aimé, Marc Lambron, vous avez des réticences. Pascal Bruckner, commençons par Marc.
Bon, d'abord, rappelons que la France était un grand pays de politique littéraire, que nous avons eu des écrivains illustres qui pouvaient s'appeler Chateaubriand, Lamartine, Malraux, qui étaient ministres et qui écrivaient. Quand Malraux publie les Antimémoires en 67, il est ministre de la Culture. Et même plus récemment, il y a un autre niveau, Frédéric Mitterrand a publié le journal de son ministère de la Culture, 700 pages. Bon, parce qu'on fait grief, évidemment, à Bruno Le Maire de travailler le matin pendant les vacances et les week-ends. Bon, voilà un roman de 470 pages, une sorte de mentir vrai, comme disait Aragon, c'est-à-dire il y a un personnage réel, mais qui est fictionnalisé, et tout se focalise sur 4 phrases, dans une scène érotique brève, et voilà d'un seul coup qu'on prend la partie pour le tout, et qu'on tombe sur le paletot de...
Paradoxalement, ce qui est assez intéressant, ça n'a aucun rapport avec la littérature, c'est que jamais les sondages de Bruno Le Maire n'ont été aussi hauts. C'est-à-dire que cette affaire lui est portée totalement à son crédit.
Oui, parce que probablement il avait une image assez lisse, et le fait qu'il puisse écrire 3 phrases à la San Antonio, dans un livre par ailleurs assez digne,
assez classique, et
assez classique. Mais parce que c'est toujours amusant, c'est le bal des jocrisses, c'est-à-dire que il y a une sorte de puritanisme voyeur, ou égrillard, qui se sert de cela pour l'instrumentaliser politiquement, évidemment. Enfin, moi, je préfère la plume de Bruno Le Maire à la gifle de Quatennens.
Oui, alors, il y a la jalousie de ses collègues du gouvernement. C'est-à-dire que Bruno Le Maire n'a pas envie d'être un haut fonctionnaire. Il veut être un peu plus. Il veut, comme l'a dit Marc, s'affilier à ce qui, en France, forme la véritable
aristocratie.
C'est-à-dire
qu'il est à la fois Bercy et Gallimard.
Voilà. Il veut s'affilier à l'aristocratie qui est la littérature,
en fait. Il a raison.
Oui. Non, mais il a raison, mais on ne lui pardonne pas. Et puis, il faut bien voir que le maître de Bruno Le Maire, c'est Dominique de Villepin. Mmh. Il y a une phrase dans son livre que Marc n'a pas citée parce qu'il est très pudique. Elle me montrait le renflement brun de son anus.
Mais c'est précisément, c'est pas.
Et vous savez à quoi ça fait allusion, ça? À un vers de Rimbaud qui est cité par Dominique de Villepin dans son anthologie de la poésie, belle hideusement d'un ulcère à l'anus et dans une saison en enfer. Donc ce sont des phrases extrêmement fortes, mais au gouvernement, ça a choqué, et dans l'opposition, on en fait des gorges chaudes.
Ouais. Mais alors vous qui avez écrit Lune de Fiel, qui était
même pas... Moi, je suis tout à fait
sensible. Vous qui avez écrit Le Nouveau Désordre Amoureux, vous n'allez pas nous faire des leçons de morale.
Mais je ne fais aucune leçon de morale, je dis simplement qu'on reproche à Bruno Le Maire une confusion des genres, et d'avoir en quelque sorte interverti ces deux rôles, celui de ministre de l'économie et des finances, et celui d'écrivain. Et c'est vrai que si j'avais été Antoine Gallimard, j'aurais peut-être tiqué sur ces phrases en disant « Attention Bruno, vous allez avoir des ennuis ». Il les a, mais vous savez, cette histoire...
Fait... Mais il les a inversés, puisque je viens de vous le dire. Oui, justement, oui. Les gens considèrent que maintenant, tout d'un coup...
Non, il les a auprès du gouvernement et dans le monde politique, mais à l'étranger, on suit cette affaire avec passion, parce que c'est un drame typiquement français. Il n'y a qu'en France qu'un homme politique peut vouloir écrire des romans et être reconnu comme un grand auteur littéraire.
Mais en l'occurrence, jaloux premier, c'est le président.
Qui n'a pas le talent de Bruno Le Maire.
Bah, qui a des prétentions littéraires, qui a un roman sur les Aztèques dans un tiroir, mais qui n'a pas publié. Voilà. Alors que Le Maire, il ressemble un peu. C'est un bon élève. Vous savez ce que disait de Louis Aragon Roger Nimier? Excellent dans toutes les matières du programme et même dans les autres.
Il est 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec le rappel des titres. Merci à tous les deux. On signalait Marc Lambron a écrit un excellent papier, La disparition de Martin Amis, donc le grand auteur anglais, qu'il qualifie de Mick Jagger de la littérature. Il fait partie de cette génération dorée de la littérature anglaise, dans laquelle il y a Salman Rushdie, Julian Barnes, avec qui d'ailleurs il a été longtemps fâché, Martin Amis, et un certain nombre d'autres.
C'est l'homme qui avait dit à la mort de Lady Di, son seul talent, c'est qu'elle savait respirer.